Seigneur, tes bienfaits sont incomptables, Seigneur. Tu nous combles de joie, de bonheur. Seigneur, nous qui te connaissons personnellement, tu mets dans notre cœur une paix qui surpasse toute compréhension, même dans l'épreuve, même lorsque on passe par des moments difficiles. Et Seigneur, pour cela, nous te louons et nous te remercions ce matin. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous sommes ta création. Nous sommes ta nouvelle création, car en nos cœurs, tu as mis une nouvelle vie, celle de Jésus-Christ, ton Fils. Nous te remercions parce qu'aujourd'hui, nous aimons faire ce qu'il te plaît, et de plus en plus, nous détestons faire ce qu'il ne te plaît pas. Et Seigneur, je te prie de continuer cette œuvre dans chacune de nos vies, jusqu'au jour où nous serons avec toi face à face. Seigneur, nous ne savons pas quand ce jour viendra. Peut-être que notre vie sera coupée courte par un accident, une tragédie, ou peut-être tu nous donneras une longue vie, mais ce qui est certain, c'est qu'un jour, nous serons devant le juge. Et Seigneur, merci parce qu'en Christ, eh bien, il n'y a pas de jugement pour ceux qui te connaissent. Nous avons la vie éternelle, et Seigneur, pour cela, nous avons hâte, et nous te remercions, et je te prie, Seigneur, même ce matin, en sondant les Écritures sur ce repos, ce jour de repos, Seigneur, que nous puissions voir que le vrai repos se trouve en Jésus-Christ. Donc, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos esprits à comprendre ta parole maintenant. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bah écoutez, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Alors, si vous êtes en train de nous visiter ce matin, eh bien sachez que vous arrivez au plein milieu d'une série, que nous avons commencée il y a quelque temps en arrière, sur les 10 commandements. Et donc, aujourd'hui, nous arrivons au 4e commandement. On en prend un par dimanche. Et aujourd'hui, c'est le 4e commandement que j'aimerais lire. Donc, on est dans Exode 20. Exode 20, et on va lire les versets 8 à 11. Exode 20, les versets 8 à 11. Je lis. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Alors, quand j'ai lu ce commandement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de penser aujourd'hui à ce qu'on voit autour de nous, en fait. Car on a l'impression, en regardant autour de nous, que les gens n'ont jamais dans toute l'histoire du monde été aussi stressés que maintenant. Aucune génération n'a autant d'objets et d'ustensiles pour lui permettre d'économiser du temps que notre génération. Et pourtant, on n'a vraiment pas l'impression que les gens autour de nous sont relaxés et tranquillos, d'accord ? On aurait pu imaginer qu'avec l'invention de l'électricité, la plomberie, le chauffage, les frigos, les micro-ondes, les fours, les machines à laver la vaisselle, les robots de cuisine, les aspirateurs, les karchers, les voitures, les lavages de voitures automatiques, les téléphones portables, les ordinateurs portables, les vêtements prêts à porter, etc., etc., etc. Et avec toutes les autres inventions qui ont été inventées, on aurait pu imaginer qu'on aurait beaucoup de temps libre aujourd'hui, n'est-ce pas ? Que les gens seraient moins stressés, Eh bien, pas du tout. C'est le contraire, semble-t-il. Car avec tous ces objets, en fait, ce qu'on fait, vous savez, un objet nous économise du temps, et donc on fait trois fois plus avec le temps maintenant qu'on a, de plus. Et donc finalement, on n'économise pas tant, on rajoute des choses dans le temps soi-disant économisé. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'en fait, le stress augmente. Eh oui. Les études montrent que les populations de l'Occident passent moins en moins de temps avec leur époux, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leurs voisins, et bien sûr, avec Dieu. Et on se demande pourquoi tellement de familles éclatent, deviennent décomposées. Ben parce qu'on n'a plus le temps de cultiver des relations saines. Entre membres de famille, on ne parle même pas d'un temps avec Dieu. Alors ceci mène à un autre problème, l'insatisfaction. C'est intéressant. Car la course au matérialisme, à ces objets, économe de temps. Le fait qu'on veut plus de possessions, plus d'argent, plus de maisons, plus de voitures, plus de vêtements, etc. C'est une sorte d'obsession d'accumuler, mène en fait à des vies de plus en plus vides. On a plus de trucs, mais moins d'amis, moins de temps. Et les gens deviennent fatigués. Avec la fatigue, ils deviennent déprimés. Ensuite, ils deviennent insatisfaits, grincheux, négatifs, méchants. Et ensuite, accusateurs, parce qu'il faut bien accuser quelqu'un. Et donc, on accuse tout le monde, mais pas soi-même, bien sûr. C'est la faute à tout le monde. Et là, souvent, si vous êtes dans le passage d'une de ces personnes, et si vous êtes dans la même famille d'une de ces personnes, ben, c'est vous qui recevez les coups. Drôle de monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Drôle de monde. Alors bien sûr, je généralise. Alors j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas du tout comme ça que Dieu a façonné la vie pour nous. Ce n'est pas comme ça qu'il l'a façonné. La Bible, et Dieu dans la Bible, nous donne des directives archi-claires pour la gestion de notre temps, qui comportent, alors, il faut le dire, le travail est une bonne chose, mais aussi le repos. Et sans une compréhension biblique de ces deux points, l'homme ne trouvera pas l'équilibre ni l'authentique bonheur dont il a accès. Il y a un équilibre à trouver. Et donc, le manuel de la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est la Bible. Ça, c'est le manuel de la vie. Dieu a créé l'homme, il a créé la vie et il nous a donné le manuel. Et aujourd'hui, nous abordons donc le quatrième commandement, celui du jour du repos, où Dieu donne les directives sur le travail, sur le repos et sur le culte. Et ce qu'on va voir, c'est que le vrai repos inclut toujours un culte. Mais là, je vais trop vite. Donc, il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. Moi, ce que je vais faire dans le temps qu'on a, alors c'est presque un défi impossible, je vais essayer de faire un survol dans toute la Bible sur cette question du sabbat ou du jour de repos, d'accord? Donc, on va chronologiquement parcourir la Bible. Alors, bien sûr, je vais choisir, je ne peux pas tout faire, il y a beaucoup trop, il y a des livres écrits là-dessus, mais j'aimerais de manière chronologique aborder le sujet de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et ensuite en tirer des applications pour nous pour savoir quelle est notre responsabilité, notre désir devant Dieu en ce qui concerne cette question du jour du repos. Donc, premier point, il y a deux grands points. On va voir le sabbat dans l'Ancien Testament et ensuite le sabbat dans le Nouveau Testament. D'accord? Regardons en premier le sabbat dans l'Ancien Testament. Et là, il y a plusieurs sous-points. Premièrement, on va regarder le sabbat avant le décalogue. Alors, le décalogue, c'est une manière de décrire les 10 commandements, d'accord? Exode 20. Alors, on va regarder en premier le sabbat avant les 10 commandements, avant le décalogue. Alors, allez avec moi à Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, donc premier livre de la Bible, et le verset 1 à 3. On lit ceci. Genèse 2, 1, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. » Donc Dieu termine la création du monde. « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc la Bible affirme très tôt, bien sûr, Genèse 2, que c'est Dieu qui a créé le concept du septième jour du repos et personne d'autre. Les deux premiers chapitres de Genèse décrivent l'activité créatrice de Dieu pendant six jours et ensuite le septième jour où Dieu s'arrête, il met une cessation de son travail créateur. Le mot sabbat, qui veut dire repos, n'est pas utilisé dans Genèse 2, mais il est clair que Dieu s'est reposé ici le septième jour. Tout ça pour dire que l'idée, le concept de ce septième jour vient dans la création ici. Alors maintenant on fait un saut aux patriarches, d'accord ? Les patriarches, ce sont les gens après la création qui sont dans la parole de Dieu. Et là c'est intéressant qu'il n'y a aucune référence au fait que les patriarches auraient observé l'institution telle quelle du sabbat, l'ordre, le commandement. Alors ils avaient un concept d'un septième jour, mais pas en tant qu'ordre. Tout simplement, ils savaient que cela existait du fait que Genèse existait. Maintenant, on arrive dans Exode chapitre 16. Allons-y. Exode chapitre 16. Donc, on est quatre chapitres avant le décalogue. D'accord ? Et quelque chose d'intéressant se passe. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont dans le désert. Et là, ils n'ont plus à manger. D'accord ? Ils ont de la peine à manger. Donc, Dieu pourvoit. Et nous lisons dans Exode 16, 22, ceci. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Dieu leur donne des cailles et de la manne, miraculeusement, pour qu'ils puissent manger. D'accord ? Et donc, le sixième jour, ils ramassent double de nourriture. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Verset 23, et Moïse leur dit... C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Verset 25, Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que, de nouveau, le concept du sabbat existait. Pendant six jours, ils devaient ramasser la manne. Le sixième jour, Dieu donnait deux portions pour que le septième jour, ils ne ramassent pas la manne, mais qu'ils l'aient déjà. Donc, tout ça pour dire qu'avant le décalogue, de nouveau, ce concept du jour du repos existait bel et bien. Alors maintenant, on arrive à notre texte. Exode 20. Le sabbat dans le décalogue. Alors là, on va examiner ces versets, d'accord ? C'est hyper intéressant. D'accord ? Verset 8, Exode 20. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors c'est intéressant, ce commandement est différent que les trois précédents dans le sens qu'il est positif. Positif. L'autre seul, il y a quand même un élément négatif, tu ne feras point d'ouvrage, mais ce n'est pas négatif, c'est simplement un ordre négatif. Et le seul autre commandement positif, c'est au verset 12, honore ton père et ta mère. Et ça, on le verra la prochaine fois. En fait, ce commandement a deux ordres. Il nous dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Premièrement, tu travailleras six jours, tu feras ton ouvrage. Donc, le premier commandement, c'est un commandement de travailler. Ça, c'est le commandement pas très populaire, d'accord ? Et ensuite, de se reposer. La deuxième partie sur le repos est plus longue. Le mot jour, ici, jour de repos, c'est le mot yom et repos shabbat. Donc, c'est le yom du shabbat, d'accord ? Le shabbat, c'est le jour de repos, inactivité. Alors, moi, je trouve super, petite parenthèse, car nous avons déjà ici un des arguments les plus redoutables dans la Bible pour la longueur des jours de la création de la terre. Car aujourd'hui, c'est très populaire de penser que chaque jour, c'était des millions d'années. Alors si tu penses ça, ça veut dire que le septième jour du repos, ici, c'est des millions d'années aussi alors. Non, comment peut-on conclure que les six jours de la création sont chacun des millions d'années, lorsqu'ici il est question du septième jour comme étant clairement un jour normal du calendrier juif, un jour de 24 heures. Parenthèse fermée, d'accord? Alors il dit ici quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors le fait que le peuple est commandé à se souvenir du jour du repos suggère qu'ils en avaient une connaissance avant. Et on l'a vu dans Exode 16 et aussi dans Genèse 2. Donc bien sûr, la connaissance était là. Mais puisqu'ils sont appelés à se souvenir, peut-être qu'ils l'avaient oublié ou ils le négligeaient. Alors il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, littéralement de le mettre à part, de le garder saint. Et dans Exode 31, on ne va pas le regarder, les versets 12 à 13, il explique que le jour de sabbat est en fait un signe que Dieu a donné au peuple juif par rapport au décalogue. Il donne l'alliance, le décalogue, les 10 commandements, et le signe, c'est le jour du repos. C'est ce qu'il est dit. Et donc on voit que ce jour du repos devait être une des marques caractéristiques du peuple de Dieu, Israël, différent de tous les autres qui ne connaissaient pas ce concept. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Alors ça, c'est le revers de la médaille quelque part. Le repos vient après le travail. Donc ici, nous avons l'ordre d'avoir une éthique de travail top niveau, suivie d'une éthique de repos top niveau. Travailler, oui. Se reposer, oui. Ils étaient appelés à travailler 6 jours, puis se reposer un jour. Vous dites, ouais, mais John, bon, je ne fais pas une application directe, mais vous dites, ouais, moi, je ne travaille que 5 jours. Ouais, mais je parie que le samedi, tu travailles quand même, c'est simplement pas rémunéré. Hein. Souvent, le samedi, c'est on fait tout le travail qu'on n'a pas pu faire la semaine, et on espère qu'on se prépare pour le jour du dimanche. Alors, c'est qu'on travaille, mais c'est simplement une question de rémunération. Souvent, c'est comme ça. Par rapport au travail, juste un petit verset que j'ai entendu hier. Ecclésiaste 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Intéressant, hein? On est appelé à travailler pleinement avec les dons que Dieu nous a donnés, avec le travail que Dieu nous a donné à la gloire de Dieu. Donc nous devons travailler fort pendant 6 jours. J'ai beaucoup aussi aimé Éphésiens 4, 28, qui dit ceci. Celui qui ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc la norme de Dieu, c'est de travailler. En fait, la Bible nous dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. D'accord ? Donc la paresse est condamnée dans la Bible. Il faut vraiment avoir une bonne éthique du travail. Verset 10, mais, travaille à fond, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Alors ça, c'est vraiment bien. Parce que là, on voit qu'aucun travail ne devait être effectué ce septième jour. Moi, j'ai fait un petit calcul. Il y a 168 heures par semaine, divisé par 7 jours, égale, bien sûr, des jours de 24 heures, ça vous le saviez. Parce que vous saviez que ça représentait 40% du temps. 14% du temps devait être un jour de repos consacré à l'Éternel. Et regardez ce qu'il dit ce verset, c'est très intéressant. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Ça c'est très intéressant. C'est pas juste un jour de repos, c'est un jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Ce n'était pas qu'un jour d'inactivité totale, de repos physique, bien que c'en était un. Non, c'était un jour, écoutez bien, qui appartenait à Dieu et qui devait être consacré à Dieu et pas à soi-même et à son travail. Le regard changeait. Et là, il y a implicite dans ces mots l'idée d'adoration, d'un culte. Donc ils devaient s'arrêter de leur poursuite légitime séculière pour donner une attention particulière à Dieu et aux besoins de son âme. Alors j'ai fait une petite recherche par rapport à ce qui se passait d'habitude pendant ce jour de repos à l'époque. Alors c'est intéressant, dans Ésaïe 58.13, bon je vais aller vite, hein. Dans Ésaïe 58.13, Dieu appelle ce jour « mon saint jour ». C'est intéressant. Quelque part, ce n'est pas notre jour de repos, bien qu'on en bénéficie. C'est son jour. C'est son jour. Mon saint jour. Dans Ézéchiel 46.3, il est dit que le peuple adora l'Éternel au jour du sabbat. Voyez-vous, c'était un jour bien plus que simplement de ne pas travailler, c'était un jour où on ne travaillait pas pour se concentrer et adorer l'Éternel. Lévitique 23.3 appelle ce jour une sainte convocation qui décrit une célébration à l'Éternel. Ésaïe 58.13 décrit ce jour, alors ça moi je trouve ça génial, c'est un petit peu ce que Fabien disait tout à l'heure, comme un délice. Un délice, c'est waouh, c'est le dessert de ma semaine, quoi. J'ai travaillé toute la semaine et là maintenant, c'est un délice de venir et adorer le Seigneur sur ce jour consacré à lui. On apprend dans Actes 13.27 que le jour du sabbat, on lisait la parole de Dieu, les prophètes, il est dit. On lisait les prophètes. Dans Actes 15-21, on lisait Moïse, la Torah. Et dans Actes 13, puisqu'il hein, les premiers chrétiens, bien sûr, vivaient encore sous l'ancienne alliance avant la... Enfin, disons, ils observaient encore le sabbat dans ce sens-là, mais on y reviendra tout à l'heure. Il dit, dans Actes 13-44, il dit ceci... Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Et ce qui se faisait, c'est que le sabbat, les gens se réunissaient, ils venaient à la synagogue, au temple, et là, l'écriture était lue, et l'écriture était expliquée, l'écriture était prêchée. Donc, tout simplement pour dire, en revenant au commandement ici, dans Exode 20, que le jour du repos était bien plus que simplement une cessation d'activité, c'était de mettre un jour, le jour saint du Seigneur à part, pour le louer et l'adorer. Alors qui devait appliquer cette loi ? Ben regardez, on est de nouveau dans Exode 20, verset 10, « Mais le septième jour est le jour du repos d'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » C'était le découpage qui reflétait la société typique à l'époque. Il y avait les Israéliens, les Juifs natifs, il y avait les étrangers résidents, puis ensuite il y avait les esclaves ou les serviteurs. Et en plus les animaux. Vous dites, ouais, pourquoi les animaux ? C'est comme marrant, ça ne vous trouvez pas ? Pourquoi les animaux devaient se reposer ? C'est marqué clair, là. Ton bétail. Bien, je trouve intéressant, il y avait une partie importante de la communauté, les animaux. Ils aidaient dans le travail, n'est-ce pas ? Et tout simplement, Dieu veut que ces animaux profitent de repos aussi. C'est intéressant, dans Genèse 9, moi, je n'avais jamais vu ça avant cette semaine. Vous savez, quand Dieu fait un pacte avec Noé et lui dit qu'il ne va plus jamais détruire la terre par une inondation, par un déluge, eh bien il dit au verset 8, « Voici j'établis mon alliance, on est dans Genèse 9, 8, avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, que tous les animaux de la terre soient avec vous. Tous ceux qui sont sortis de l'arche soient avec tous les animaux de la terre. » Dieu promet de ne plus détruire l'homme et aussi les animaux. C'est intéressant. Alors ceci nous amène au verset 11. Pourquoi célébrer un jour de repos comme ça, à l'époque? Verset 11. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc deux raisons, en fait, sont données ici. La première, en fait, elle se trouve dans ce texte, c'est la création du monde. C'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, vous devez garder ce jour du repos. Israël a dit ça, bien sûr. Car en six jours, l'Éternel a créé la terre. Et il s'est reposé le septième jour. Donc on voit que cette loi, ce commandement du sabbat est lié donc à la création. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Au fait, je voulais revenir sur cette question des animaux. Je me suis dit, moi, en réfléchissant, si Dieu veut que les animaux se reposent, bah d'autant plus il veut que moi je me repose. D'accord ? C'est-à-dire, si c'est important pour les animaux, bah c'est d'autant plus important pour un homme. Mais bon, je reviendrai tout à l'heure. Donc ici, c'est tout simple. L'homme est appelé à imiter Dieu, tout simplement. L'homme doit faire comme Dieu. Dieu a travaillé six jours, il s'est reposé un jour, l'homme fait pareil. Tu te reposes six jours, si tu travailles six jours et tu te reposes un jour. Ce serait pas mal, hein, l'inverse. Je vous vois venir, hein. J'ai fait exprès pour voir qui allait rire. ouais, ça veut dire que vous écoutez vraiment ce que je dis. C'est très bien. Alors je me suis posé la question, pendant ce jour de repos, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Vous avez déjà posé ces questions? Il a créé pendant six jours, et ensuite, tac, il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce jour de repos? Eh bien, dommage, la Bible ne nous le dit pas, mais je vous donne ce que je pense qu'il a fait. D'accord? Ce n'est pas inspiré ce que je vais dire, mais je crois que Dieu a admiré sa création. Il a admiré sa création. Et en parallèle, écoutez bien, l'homme, lorsqu'il s'arrête ce jour de repos, lui aussi peut regarder en arrière et admirer sa création. Vous dites, ouh là, John, t'es sûr? Ouais, je crois. Parce que dans Genèse 1, 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a demandé à l'homme de dominer sur la création, et dans le verset 28, il dit « Multipliez, remplissez, assujettissez, dominez ». Dieu a donné à l'homme la capacité de dominer et d'assujettir, de créer. Moi, j'y pense tous les jours. Moi, ce qui m'étonne récemment, c'est les médicaments. Moi, j'avais un petit problème de palpitation de cœur. Et alors, je suis allé voir le docteur, il m'a dit, écoutez, prenez cette petite pilule, ça va régler votre problème. Écoutez, c'est dingue, ça fait deux semaines que je n'ai pas eu de palpitation. Je me dis, mais comment est-ce qu'on crée une pilule pour ralentir le cœur? C'est quand même incroyable. Et vous prenez des médicaments, et ils arrivent à faire des médicaments qui vous aident dans tous les domaines de votre vie, presque. Hein, ce n'est pas parfait, on est d'accord. Mais des pianos, des batteries électriques, des rideaux, des lumières, des voitures. Mais c'est incroyable ce que l'homme a pu créer. J'étais à côté, là, je pensais que quelqu'un m'offrait un iPad. Non, ce n'était pas offert, c'était à quelqu'un d'autre. Mais c'est génial, ces trucs qu'on a aujourd'hui. L'iPhone. Mais c'est incroyable. Dieu nous a donné une capacité de créer, et pendant le jour de repos, comme lui, on peut regarder en arrière et admirer la création, bien sûr, pas l'idolâtriser, mais l'admirer, et je dirais, c'est là où on va le prochain... Comment dire, la prochaine étape, et on remercie Dieu pendant ce jour de repos qui nous a donné la capacité de pouvoir travailler, de pouvoir créer et de pouvoir admirer. Et on le bénit et on le loue et on l'adore. Parce que sans lui, mes amis, rien de cela ne serait possible. Et regardez le verset 11b, c'est pour ça qu'il dit « C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Et c'est là où je dirais que je pense qu'un vrai jour de repos, C'est pas simplement une cessation d'activité. Voilà, j'arrête de travailler, je prends une sieste pendant 12 heures. C'est très bien, je suis très pro-sieste. D'accord ? Mais bibliquement, un jour de repos va beaucoup loin. C'est un jour de repos, cessation d'activité, mais un jour de louange et d'adoration où on se concentre sur celui qui a créé ce jour pour le remercier, pour l'adorer, pour le louer, pour le chanter, pour le célébrer par rapport à toutes ces choses qui se sont passées la semaine avant. Et moi, je pense que les gens qui ne connaissent pas Dieu personnellement et son Fils Jésus-Christ ne connaissent pas le vrai repos. Ils connaissent la cessation d'activité, oui. Mais ils ne connaissent pas cette dimension surnaturelle de venir l'adorer. Et comme on l'entendait tout à l'heure pendant les chants, mais écoutez, on vient, on chante, on adore le Seigneur, mais on sort différemment. On est reposé spirituellement. Et ça, je pense, c'est la clé du vrai repos. Alors, il y a une deuxième raison pour le sabbat. On le voit dans Deutéronome 5, 15. Je le mentionne tout simplement. C'est le passage parallèle, hein, la deuxième répétition des 10 commandements. Là, il donne la raison. On est dans Deutéronome 5, 15. Il dit là, le verset 12. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu t'a ordonné. Deutéronome 5. Et ensuite, il dira au verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc, une première chose, c'est qu'on devait regarder en arrière et copier Dieu dans le sens qu'il a créé et qu'il s'est reposé. Deuxièmement, nous devons regarder en arrière, enfin, il devait regarder en arrière et voir et remercier Dieu pour leur rédemption. Comme quoi il les a sortis de l'esclavage d'Égypte et il les a amenés pour en créer un peuple. Alors c'est vrai que ça me faisait penser à la Sainte-Seine. La Sainte-Seine, c'est un peu ça aussi. Nous, lorsqu'on célèbre la Sainte-Seine, on se rappelle du sacrifice de Jésus-Christ à notre égard, notre rédemption, et on l'adore et on le loue. Et ici, c'est un peu ça. Ici, il devait, ce jour du repos, le jour du repos, regarder en arrière et se rappeler de la création de Dieu, mais aussi de la rédemption de Dieu à leur égard. Alors, que s'est-il passé maintenant après le décalogue ? Écoutez, vous savez ce qui s'est passé ? C'est comme dans tellement d'endroits, la routine et l'hypocrisie s'est installée. Et là, on le voit dans Ésaïe 1, par exemple. Dans Ésaïe 1, il dit au verset 13, « Cessez d'apporter vos vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. » Dieu dit, j'en ai marre de vos sabbats. Arrêtez. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Il dit, mais allez voir, vous venez n'importe comment offrir un culte lors du sabbat, mon âme, et vos nouvelles lunes et vos fêtes. Verset 14, elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, car vos mains sont pleines de sang. Il dit, écoutez, vous vivez votre vie n'importe comment, et ensuite vous venez n'importe comment m'offrir un soi-disant culte. Il répond, j'en ai en horreur. C'est fort. Ça, c'est fort. Et dans Amos 8, c'est intéressant, et au verset 4, écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Alors ça, c'est un groupe de gens avares, d'accord ? Ils ont trouvé des moyens de pomper de l'argent des gens de manière malhonnête, d'accord ? Vous dites, verset 5, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée ? Afin que nous vendions du blé. Quand finira le sabbat? Afin que nous ouvrirons les greniers, nous diminuerons l'EFA, nous augmenterons le prix et nous falsifierons les balances pour tromper. Ça, c'est des gens qui disent, oh mince, le sabbat. Oh là là, le bénéfice, ça marche bien, quoi. Moi, j'ai trouvé des combines pour m'enrichir, et là, le sabbat arrête tout le commerce. Et moi, je n'ai qu'un désir, c'est d'attendre le jour après pour redémarrer dans mon commerce malhonnête. Alors, ces gens viennent, ils disent, oh, Alléluia, je louerai l'Éternel. Non, mais t'as voir, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, passons maintenant au Nouveau Testament. Il faut que j'avance un petit peu là, d'accord? Le sabbat dans le Nouveau Testament. Alors, les leaders juifs dans le Nouveau Testament, c'était les pharisiens. Après l'exil juif en Babylonie et leur retour en Israël, il y avait une période de 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Beaucoup de choses ont changé par rapport au sabbat. Alors, il y avait peut-être un souci honnête, mais par ce souci de vouloir sauvegarder la loi du sabbat, un peu comme on bâtirait un mur autour d'une maison, les pharisiens et les scribes se sont dit, on doit mieux définir ce que veut dire ce sabbat. Il faut que ça soit clair pour les gens. Vraiment clair. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, ils ont été dans Exode 16, verset 29, qui dit ceci. Que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. Donc là, dans cette directive, il est dit, le jour du sabbat, il ne faut pas sortir de chez toi. Il y avait même, sur certaines de ces règles, une peine de mort. C'était très important. Alors bien sûr, les scribes et les pharisiens se sont dit, ah bon, alors il ne faut pas sortir de chez soi, mais qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement ? Comment on interprète ça ? Qu'est-ce que ça veut dire sortir de chez moi ? Est-ce que ça veut dire mettre le pied dehors ? Plus, moins ? Alors, ils se mettaient ensemble, ils passaient des jours, des semaines, des mois à réfléchir sur ce qu'ils pensaient être la juste réponse. Par exemple, ils ont décidé de manière tout à fait aléatoire que de quitter sa maison le jour du sabbat se portait à 2000 cubits de distance. J'ai regardé sur Google, ça veut dire 914 mètres. Donc tu avais le droit de sortir de chez toi et aller 914 mètres de distance chez toi, et ça c'était pas considéré travail. Mais si tu allais 915 mètres, t'étais fichu. Sauf si le jour avant tu avais mis de la nourriture à cet endroit, là tu pouvais alors continuer 914 autres mètres. Sur quelle base est-ce que cette loi a été rédigée ? Il n'y a aucune base. Dans Jérémie 17, 21, il a dit par exemple, « Prenez garde à vos âmes, Jérémie 17, 21, ne portez point de fardeau le jour du sabbat. » Voilà, la loi disait, tu ne dois rien porter le jour du sabbat. Donc ils se sont dit, ah, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on a le droit de porter, pas porter, pour violer ou pas violer le jour du sabbat ? Comment définir un fardeau convenable ce jour-là ? Alors voici certaines des lois qu'ils ont rédigées ou qu'ils ont interprétées. Porter de la nourriture égale au poids d'une figue sèche, t'avais le droit. Si l'objet ne pesait que le poids égal à la moitié d'une figue sèche, alors tu pouvais porter deux fois le poids. Tu avais le droit de porter assez de lait pour pouvoir avaler une gorgée seulement. Tu pouvais porter assez de miel pour pouvoir mettre assez de miel sur une blessure. Tu avais le droit, alors ça je trouve intéressant, de porter assez de papier pour écrire un mot. D'accord ? Donc les scribes passaient leur temps à essayer de trouver les solutions. Si un homme... Il se posait des questions, par exemple, si un homme pouvait ou non déplacer une lampe à huile d'un endroit ou un autre pendant le sabbat. Question importante. Est-ce qu'un tailleur pêchait lorsqu'il sortait de chez lui avec une aiguille épinglée à sa robe ou pas ? Est-ce qu'il avait le droit de porter cette aiguille ? Celle-là, je la trouve vraiment intéressante. Mesdames, elle est consacrée à vous, d'accord ? Pour eux, une femme n'avait pas le droit de se regarder dans une glace le jour du sabbat, de peur qu'elle verrait un cheveu gris et qu'il serait tenté de l'arracher, qui serait considéré une œuvre. Alors voilà, c'est le genre de choses qu'ils discutaient, qu'ils essayaient de comprendre. MacArthur dit ceci, pour résumer. Certes, devoir garder le sabbat était une exigence cérémoniale sur le peuple juif. Mais au lieu d'avoir fait du sabbat un jour de repos spirituel, comme Dieu l'avait voulu, les juifs en avaient fait un jour de fardeau incroyable qui fatiguait les gens au lieu de les rafraîchir. À cause des milliers de restrictions humaines au sujet du sabbat, le sabbat était devenu un jour de plus grande fatigue que les 6 jours d'occupation professionnelle. Il était plus difficile de se reposer le jour du sabbat que de gagner sa vie. Alors bien sûr, ce n'était pas du tout le but. Alors maintenant, on comprend pourquoi il y a eu un monstre clash entre les Juifs et Jésus. Et ça, c'est le prochain point. Le sabbat et Jésus. Il est inévitable que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, rentre en conflit avec les pharisiens par rapport à la loi du sabbat. Alors, allons-y à Matthieu 12. Regardez, il y a 6 grands conflits par rapport au sabbat dans le Nouveau Testament, mais on va regarder une. Juste rapidement, Matthieu 12. Matthieu 12. D'accord ? Et ce que Jésus est en train de dire, il dit, écoutez, vous n'avez pas compris, messieurs. Vous avez rendu le sabbat une loi d'obéissance mécanique. Ça n'a rien à voir. C'est toute une question de cœur. Regardez ici, c'est vraiment intéressant. 6 conflits, et là il y en a un, c'est peut-être un des plus connus, mais ils sont tous bien connus, d'accord ? Regardez le verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Alors là, on voit tout à fait la scène. Bon, les pharisiens, vous savez, ils voulaient discréditer Jésus, ils voulaient prouver que Jésus n'était pas le Messie. Donc on les voit presque cachés dans les champs de blé avec des jumelles, d'accord ? Et ils regardent, ils attendent le moment. Et là, ils savaient que ça allait arriver parce qu'ils sont là dans les champs de blé, vous l'avez tous fait, parce que moi aussi, dans le champ de blé, tac, vous prenez un petit épi et vous enlevez le quoi ? La vanne ? Je me rappelle plus comment ça s'appelle, le truc qu'on n'aime pas. Et ensuite, ils mangent le grain, d'accord ? Et c'est exactement ce qui se passe. Le problème, c'est que les pharisiens avaient conclu ou avaient défini cette activité de manger du blé au jour du sabbat comme une œuvre, un travail, et donc interdit. Ils auraient dû lire Deutéronome 23, 24 à 25, qui dit qu'on a le droit, si on a faim, de manger du blé. Alors, il n'est pas spécifié pour le sabbat, mais ce n'est pas un mal de manger du blé dans un champ si on a faim. Regardez maintenant le verset 3. « Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim ? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de proposition qui n'était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui n'était réservé aux sacrificateurs seuls. » Alors Jésus répond avec une illustration tirée de 1 Samuel 21 qui nous explique que dans le tabernacle, il y avait 12 pains de proposition qui symbolisaient les 12 tribus. Et dans Lévitique 24, 9, on apprend que seuls les prêtres avaient le droit de manger ces pains lorsqu'ils les changeaient. Point à la ligne. Mais, dans Lévitique 24, 9, lorsque David fuyait Saül, il avait faim, il est entré, il a dit, est-ce que je pourrais manger ces pains? Et le prêtre a dit, ouais, vas-y, prends-les. Alors, il les a pris, il les a mangés. Alors, quelle est la logique de Jésus ici? Question. Est-ce que David avait le droit, selon la loi, de manger des pains de proposition? Oui ou non? Non. Est-ce que David a mangé ses pains de proposition? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il était en train de violer techniquement la loi? Oui. Il violait la loi. Il n'avait pas le droit de le faire. Mais est-ce que la violation de cette loi était condamnable? Non. Il n'a pas été condamné pour avoir violé la loi. Pourquoi ? Car le besoin du moment de manger surpassait La loi cérémoniale n'est pas une proposition. Voyez-vous, ces lois cérémoniales pointaient à une vérité. Et là, Jésus dit, il avait parfaitement le droit de violer cette loi pour sa fin. Donc la clé, c'est que les lois, la loi des propositions était une loi cérémoniale. Une loi qui avait but de représenter une vérité auprès du peuple de Dieu. Ce n'était pas, écoutez bien, parce que c'est vraiment important ce que je vais dire maintenant, ce n'était pas une loi dite morale. Une loi morale a une dimension éternelle. Par exemple, le meurtre. Le meurtre, c'est une loi morale. C'est toujours un mal de faire un meurtre. L'adultère, c'est une loi morale. C'est toujours un mal de commettre l'adultère. Mais les lois cérémoniales étaient des lois représentatives de vérités plus grandes. Alors, le contexte ici, c'est quoi? C'est le sabbat. C'est ça le contexte. Jésus dit, le besoin de ta vie et des hommes était plus important à ce moment-là que de garder cette loi cérémoniale. Si, écoutez bien, David avait le droit de violer une loi cérémoniale biblique, combien plus les disciples du Fils de Dieu et le Fils de Dieu avaient le droit de violer les règles rabbiniques du sabbat, qui étaient de toute façon une loi cérémoniale et pas une loi morale. Les rabbins avaient pris cette loi cérémoniale et en avaient fait une loi morale. Et ça, c'était leur grand tort. Et là, il donne au verset 5 une autre illustration. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Il dit, mais écoutez, c'est pareil. Moi, si tu étais sacrificateur, tu travaillais le jour du sabbat, oui ou non? Oui. Donc techniquement, tu travaillais. Donc techniquement, tu violais le sabbat. Ben non. Eux, c'était l'exception. Donc Jésus dit, il y a des exceptions. Donc n'en faites pas une loi morale. Ce que Jésus dit alors, c'est que même pas Dieu, qui lui-même a donné la loi du sabbat dans le décalogue, n'est aussi rigide que vous dans son application. Ça, c'est quand même le comble, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça génial. Et voici la clé, verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il a dit, ne comprenez-vous pas que le temple était là pour permettre aux gens d'adorer Dieu? Maintenant, il dit, Dieu vient de venir parmi vous. Jésus-Christ. Vous vous attachez au temple quand le Fils de Dieu est là, mes gars. Vous n'avez rien compris. Je suis ici, c'est moi qui a créé tout ça. Je suis là. Tout cela pointait à moi. Et vous attachez encore au temple et aux lois cérémoniales. Si vous saviez ce que signifie verset 7, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Et la clé, verset 8, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Jésus dit, je suis plus grand que le temple, plus grand que le sabbat. Je suis le maître du sabbat. L'homme, le Fils de l'homme, était une appellation pour Messie. Vous savez qui est en train de dire? Qui a créé le sabbat? Moi. Voilà ce qu'il dit. J'y pensais. Colossiens nous dit que le Fils de Dieu a créé tout l'univers, n'est-ce pas? À côté de son Père. C'est intéressant. Qui a créé l'homme? Ben, je vais vous dire. Le Fils de l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé La terre. Christ. Qui a créé l'homme? Christ. Qui a eu l'idée du jour du sabbat? Christ. Et j'ai créé le jour du sabbat pour vous, pour l'homme. Maintenant, je suis là. C'est incroyable. Dans Marc 2, il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du jour du sabbat. » Alors, je vais vite conclure, d'accord? Regardez maintenant. Maintenant, on passe au sabbat et Paul. Paul dit exactement la même chose. On est sous la nouvelle alliance. Dans Colossiens, allez avec moi dans Colossiens, parce que c'est la clé, d'accord, pour comprendre. Colossiens 2, 16 et 17. Regardez. Paul y dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Et là, il dit la clé. « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Ce qui est en derrière, c'est ceci. Regardez ma Bible. D'accord ? Il y a une lumière au-dessus de moi et donc je vois une ombre de ma Bible sur la chair. Le sabbat, c'était l'ombre. On regardait l'ombre, on se dit « Waouh, super, un jour de repos qui nous pointait à Dieu, qui nous pointait au repos en Dieu, c'était un culte offert à Dieu. » Mais regardez ce qui se passe. Quand je pose ma Bible sur la chair, que se passe-t-il à l'ombre ? Elle est où l'ombre ? Elle disparaît. Elle disparaît. Pourquoi ? Parce que le réel qui crée l'ombre est arrivé. Et voilà ce que Paul est en train de dire dans Colossiens 2 ici. Il est en train de dire que personne ne vous juge au sujet du manger, de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est Christ. Ma Bible représente Christ. L'ombre, c'était toutes ces fêtes, dont le sabbat. Et quand Christ est arrivé, l'ombre disparaît. La loi telle qu'elle du sabbat est une loi cérémoniale qui, lorsque Christ est venu, a disparu. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis le maître du sabbat ». Le sabbat, c'est moi. Il faudrait que je fasse une série sur ce point, parce que là, il y a tellement de trucs à dire. Mais je ne vais pas tout dire, bien sûr. Écoutez, on va s'arrêter là. J'ai l'autre verset pour prouver ce point, mais je vais laisser là, parce que sinon on ne va pas pouvoir finir, d'accord ? Juste une chose, peut-être intéressante, dans Romains 14, vous savez, bien sûr, les chrétiens ne sont peut-être pas tous convaincus par rapport à cela, et c'est intéressant, dans Romains 14, il y a, surtout dans le Nouveau Testament, lorsqu'on passait de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup de chrétiens qui se disaient « Mais mince, moi j'ai grandi, j'étais juif, moi j'ai envie de continuer à observer ces jours tels quels. » Alors Paul il comprend qu'on est dans une période de transition. Alors il dit dans Romains 14 « Accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Il y a des gens qui se disent « Moi je suis encore sous la loi même de nourriture dans l'Ancien Testament. » Ok, ben, c'est pas la fin du monde, d'accord. « Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Qui es-toi, qui es juge, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela ne regarde ton maître. Mais s'il se tiendra debout, regardez verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, donc les jours de fête, comme le sabbat, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Tout ça pour dire, voilà, bah, si des gens ont des opinions différentes, on n'en fait pas une bagarre. On n'en fait pas une bagarre. Alors, maintenant, la question se pose. Alors, est-ce qu'on doit obéir le sabbat ou pas, alors, aujourd'hui ? C'est la question clé. Parce que si Jésus est notre sabbat, si l'ombre maintenant a été remplacée par Christ, ben, qu'est-ce que je fais, alors ? Je maintiens ou je ne maintiens pas ? Bonne question. Ben, c'est intéressant. Que la loi du sabbat telle qu'elle, comme un commandement très intéressant, Cette loi-là, le quatrième commandement, est le seul des 10 commandements qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament comme commandement. Le seul. Au contraire, il est annulé selon Colossiens 2 que nous venons de voir. Intéressant. Vraiment intéressant. Et on voit que dans le Nouveau Testament, le premier jour de la semaine, donc le dimanche, fait dans certains calendriers, le dimanche c'est le premier jour de la semaine, d'accord ? A remplacé le sabbat comme jour de culte. Je vous donne quelques exemples. Dans Jean 20, on ne va pas tout lire, je vous le dis. Dans Jean 21, il est dit que le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité des morts. Jésus est ressuscité le dimanche, ça c'est clair. Même les sabbatariens reconnaissent cela. Dans Marc 16, 9, il est dit « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine ». Donc c'est clair que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Alors c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on regarde et on analyse les cultes du Nouveau Testament, par exemple dans Actes 20, 6 et 7, il est dit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain ». Et Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. C'était le premier jour de la semaine où ils se sont réunis pour rompre le pain. Dans 1 Corinthiens 16, 2, il est dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, pour recueillir des dons. Il montre que les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine pour adorer Dieu, pour offrir un culte, et donnaient leur offrande le premier jour de la semaine. Dans Apocalypse 1, 10, il est dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Et ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est qu'il est dit « Le jour qui appartient au Seigneur ». Cette phrase nous montre que c'est un jour particulier pour le Seigneur, le premier jour de la semaine. Et donc, la conclusion, c'est que depuis les premiers jours de l'Église, les chrétiens ont remplacé le samedi par dimanche comme jour spécial d'adoration. Alors certains prétendent que ce jour a été changé par les papes. Moi je pense pas. Moi je pense qu'on voit clairement dans le Nouveau Testament qu'il y a eu un changement qui s'est fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, et je dirais la grande majorité des églises, même à Genève ou dans le monde, se réunissent le dimanche et pas le samedi. Je pourrais vous donner des citations des pères de l'Église, Ignace, Justin Martyr, Irénée, Tertulle, tous ces gens proclament dans les premiers deux siècles après le Nouveau Testament, que eux considéraient le sabbat caduc et qu'ils adoraient le Seigneur maintenant le premier jour de la semaine. Donc, et je termine avec ceci, le dernier point, le sabbat et les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous ? Je pense que nous ne sommes plus sous la loi cérémoniale du sabbat de l'Ancien Testament. Je pense que dans le Nouveau Testament, la norme est, et ce n'est pas une loi, ce n'est pas un commandement, le jour, c'est ce qu'on voit. On observe que le jour de la résurrection de Jésus-Christ est devenu le jour de culte des chrétiens. Ce n'est pas, le dimanche n'est pas un sabbat chrétien, car on n'a pas d'exigence qui nous est exigée. Notre vrai repos est en Christ, mes amis, en Jésus-Christ. Alors, je termine avec quelques principes. Je résume, d'accord ? Numéro 1, nous devons travailler 6 jours. Ça c'est, on est d'accord. On doit travailler, d'accord ? Alors, j'ai même de la peine à dire 6 jours, parce que c'était une requête de l'Ancien Testament. Nous devons travailler, voilà. Nous devons vraiment travailler à la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que nous devons faire. Notre vrai repos est en Christ. Un culte dédié au Seigneur est une chose normale, juste, nécessaire. Le vrai repos, mes amis, n'est pas que cessation du travail. C'est cessation de travail et un culte rendu à Dieu. Nous nous réunissons le premier jour de la semaine, le dimanche, parce que Jésus est ressuscité le dimanche et que les chrétiens du Nouveau Testament se réunissaient le dimanche. Nous nous réunissons donc pour adorer Dieu pour communier les uns avec les autres, pour exprimer notre libéralité. Nous remercions Dieu pour sa création de nous et le travail qu'on a pu accomplir. Nous le remercions pour la rédemption. L'observation du dimanche, comme je l'ai déjà dit, n'est pas une observation néo-testamentaire du septième jour. Nous sommes sous la nouvelle alliance, ce n'est pas une loi, c'est un principe. Un principe. Le chrétien qui aime le Seigneur Jésus-Christ va vouloir être avec d'autres chrétiens pour adorer le Seigneur Jésus-Christ de manière régulière. Est-ce que c'est un péché de travailler le dimanche? Je ne pense pas. La Bible ne dit pas que c'est un péché de travailler le dimanche. Mais je pense que nous devons avoir un jour de culte, un jour de repos. Et si notre travail est tel qu'on ne peut pas avoir un culte et un jour de repos, peut-être qu'il y a un problème. Et moi, ça me donne une nouvelle appréciation pour le culte. Je vous dis franchement, j'ai déjà souvent dit, c'est mon jour préféré de la semaine. Moi, j'aime venir ici le dimanche matin, être avec vous et être avec le Seigneur et l'adorer. Vous dites, John, c'est ton travail. Ouais, ok, c'est mon travail. Mais j'aime, c'est mon cœur. Et j'espère qu'on vient le dimanche matin en courant. Vraiment en courant. Pour le bénir, l'adorer, le louer. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de gadgets chez vous qui vous économisent du temps. Honnêtement, comment va votre repos dans le Seigneur? Est-ce que vous lui donnez le temps dont il a besoin et dont vous avez besoin? C'est ça la question. Prions. Ah Seigneur, merci parce que la Bible, de nouveau, Seigneur, elle est tellement claire, elle parle tellement juste. Seigneur, merci que Jésus-Christ est notre paix, notre repos. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons aujourd'hui pour tout ce que tu es pour nous. Seigneur, c'était technique aujourd'hui et beaucoup d'informations, mais je te prie que tu puisses faire le tri dans nos esprits, Seigneur, et nous permettent de nous reposer sur l'essentiel. Seigneur, merci pour le repas qui se présente devant nous. On pourra partager, peut-être poursuivre la discussion. Seigneur, je te prie que la communion fraternelle soit vraiment encourageante et que nous puissions vraiment être en fête aujourd'hui, parce que c'est ton jour. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Christ, Seigneur, qu'ils sachent que toi, tu peux être leur repos. Tu es mort et ressuscité pour eux. Tu leur offres la vie éternelle, le pardon des péchés. Aujourd'hui, Seigneur, que ce soit le jour où ils découvrent ce repos. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.